6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
La revue de presse ce matin avec vous Jean-Philippe Ballas. Une presse sur fond de Covid. Tribunes et inquiétudes.
Oui, j'aurais tant voulu commencer par autre chose, mais difficile ce matin de ne pas voir dans vos journaux tous ces signaux d'alerte, toutes ces projections, accélérations, ces admissions en réanimation, bref, la peur d'une nouvelle saturation. Et c'est pour cela que dans le JDD, un collectif de médecins lance un appel à des actions drastiques, radicales, dès ce week-end. Et de citer les autres en exemple, l'Espagne, Israël, le Royaume-Uni, l'Italie, qui ont déjà mis en œuvre des mesures allant pour certains jusqu'au confinement, dit cette tribune. Et alors, la situation sanitaire de la France n'est pas différente de celle de ces pays, CQFD. C'est dès maintenant qu'il faut agir vite et fort. Le retour du tout le monde à la maison est même une proposition très sérieuse qui attire forcément notre attention puisqu'elle émane de deux prix Nobel. Pas de médecine certes, mais d'économie. Esther Duflo et Abhijit Banerjee qui veulent sauver Noël. Je vous explique, dans une tribune publiée par Le Monde, ils préconisent un nouveau confinement total, disons entre le 1er et le 20 décembre, juste avant les fêtes. On pourrait réduire les vacances de la Toussaint, rallonger les autres, anticiper les courses, s'adapter. Le but serait de prendre un peu d'avance sur le virus, d'éviter un scénario catastrophe et permettre ainsi aux familles de se retrouver ensemble le soir du réveillon.
Et on imagine aussi l'angoisse de ceux qui ne veulent pas être à nouveau enfermés chez eux.
À ce propos, Patricia, dans le JDD, un sondage IFOP ce matin affirme que 72% des Français se disent prêts à respecter un reconfinement d'au moins 15 jours. 70%, c'est quand même beaucoup. Notons malgré tout qu'ils sont nettement moins nombreux dans les catégories modestes ou chez les artisans, les commerçants, avec dans l'ensemble une baisse très marquée de la confiance accordée à l'action du gouvernement. L'amertume, c'est le titre de La Provence ce matin, avec la photo d'une terrasse qui se vide et ce sentiment d'injustice chez les restaurateurs marseillais et aixois qui s'apprêtent donc à fermer à minuit.
Dans la presse également dominicale, ce matin donc des masques et des nombrils.
Oui, le masque et nombril, le dress code, si j'ose dire, de deux adolescentes à la une de la Dépêche du dimanche. Les tenues de la discorde, vous le savez, c'est le grand débat depuis la rentrée au lycée. Et le journal pose la question, est-ce le retour de la pudibonderie ? Sauf qu'en fait, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat. Les filles peuvent s'habiller comme elles veulent, c'est un droit, nous dit Slate. Un droit et pas une opinion, on ne vous demande pas votre avis. Là, c'est la tribune de Titu Lecoq, très en colère. Parce que, dit-elle, contrôler les tenues des filles sous prétexte qu'elles risquent d'exciter des garçons hétéros, c'est exactement ce qu'on appelle la culture du viol. Point. Illustration parfaite avec ce témoignage que j'ai trouvé ce matin sur le site de la ZEP, la zone d'expression prioritaire. C'est un collectif qui donne la parole depuis de nombreuses années à des jeunes, précisément. Et cette fois donc, nous écoutons Louane. Elle a 16 ans, elle vit à Dunkerque. Et elle raconte les mots, les allusions des adultes, enseignants, surveillants. Non mais tu sais, c'est pour que tout le monde soit concentré, qu'il n'y ait pas de problème. Sa prof de sport lui a carrément dit « Je vous comprends, mais les garçons, ils vont avoir la tête ailleurs ». Le genre de réflexion qui déclenche cette sortie implacable de Titu Lecoq, je cite « Si vraiment les hommes sont des créatures faibles, sans volonté, incapables de rester concentrés face à une fille en short, totalement soumis à leurs pulsions, alors il serait peut-être temps de poser la question « Êtes-vous pour ou contre le droit de vote des hommes ?» Pas mieux.
On termine avec une banane.
Pas n'importe quelle banane, celle de l'artiste Maurizio Cattelan. Personne n'a oublié évidemment cette banane scotchée au mur, cette œuvre d'art. Eh bien j'apprends dans le New York Times que la dite banane va rejoindre les collections du Guggenheim. Oui, le prestigieux musée de Manhattan. Alors il s'agit de l'un des 3 exemplaires de l'œuvre acheté par un collectionneur anonyme qui a décidé d'en faire don. Combien ça coûte les amis ? 150 000 $. Mais attention pour ce prix, nous dit le journal. Vous n'avez pas un simple fruit jaune et un banal ruban adhésif, non. Vous avez un certificat d'authenticité et un mode d'emploi.
Un mode d'emploi, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous avez toute une liste d'instructions très précises, 14 pages qui vous expliquent comment l'œuvre doit être exposée. À un peu plus d'1,70 m au-dessus du sol, 68 pouces à hauteur des yeux, avec un angle de 37 degrés, il faut évidemment changer la banane régulièrement, tous les 7 à 10 jours. Alors si vous ne lisez pas l'anglais du New York Times, sachez que Slate vous en fait un bon résumé en français et vous apprend que cet aspect éphémère, alimentaire, inattendu d'une œuvre, eh bien, ce n'est pas un cas isolé. Un artiste mexicain ainsi propose une sculpture à base de tortilla, tandis qu'un autre signe la reproduction d'une ville algérienne en semoule à couscous. De quoi transformer n'importe quel conservateur de musée en épicier érudit. Et moi j'adore le titre du New York Times, c'est une banane, c'est de l'art, et maintenant, C'est le problème du Guggenheim.
Ça va nous, ça pas nous arranger notre Christophe.
Non, sûrement pas. Ça va le rendre un peu plus fou. Le Guggenheim et cette rampe blanche, lisse et magnifique, qui monte magnifique à New York. Musée Guggenheim. Merci Philippe, Jean-Philippe Ballas.